Une équipe de chercheurs australiens pense avoir découvert au Groenland les plus anciennes traces de la vie sur Terre, cachées dans des feuillets de roches datés donc à 3,7 milliards d'années. Sylvain Bernard, vous êtes en ligne avec nous, bonjour. Vous êtes chercheur à l'Institut minéralogique de physique des matériaux et de cosmochimie. Vous allez donc nous éclairer sur cette découverte qui est annoncée partout comme étant extraordinaire. Alors ces roches en feuillet qu'on appelle également des stromatolites et qui viennent d'être analysées par ces scientifiques australiens, pourquoi est-ce qu'elles sont si intéressantes quand on cherche de traces de vie anciennes ?
C'est intéressant ces roches parce qu'en fait c'est des structures relativement simples et facilement identifiables, en tout cas à l'œil nu. C'est des roches qui présentent des structures en dôme, qui peuvent être coniques, qui peuvent être arrondies, et qui sont constituées, comme vous le disiez, de laminations, donc de feuillets, d'alternance, de différentes phases minérales. Et les seuls équivalents actuels qu'on ait de ces roches, c'est des stromatolites qui se forment en association avec le vivant. On ne connaît pas exactement la contribution du vivant pour la formation de ces roches à l'heure actuelle, mais on a toujours du vivant associé. Et comme ces roches, on les retrouve dans l'enregistrement géologique à peu près à toutes les époques, l'intérêt, c'est que quand on les trouve, on peut essayer d'aller discuter de la nature biologique ou non de ces objets.
Ça veut dire que des stromatolites ne peuvent pas se former sans la présence d'êtres vivants, c'est ça que vous voulez dire ?
À l'heure actuelle, en fait, on n'en sait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y a eu, un gros débat suite à la découverte de stromatolites très anciens, il y a une vingtaine d'années. Il y a déjà eu un gros débat sur l'origine biologique ou non de ce type de roche, c'est-à-dire à nouveau des roches en feuillets qui présentent des laminations visibles à l'œil nu. Et en fait, pour le moment, c'est toujours pas très clair si la vie intervient vraiment pour former ces objets. En tout cas, dans le passé, si la vie est vraiment intervenue pour former ces objets ou s'ils ont pu se former de façon purement abiotique, c'est-à-dire sans faire intervenir le vivant du tout.
Et qu'est-ce qui permet à votre confrère Alan Nutman aujourd'hui d'affirmer que celles qu'il a trouvées là sont bien d'origine biologique ?
Parce qu'en fait, ce débat, il n'est pas vraiment résolu. Et donc, il y a des partisans du tout vivant, c'est-à-dire toutes les stromatolites qu'on va voir dans l'enregistrement géologique et qu'on va retrouver, y compris les plus anciennes, sont forcément des preuves irréfutables de l'activité biologique. Ils ont été formés, ces stromatolites, par du vivant. Le seul problème, c'est qu'en fait, ça, c'est une façon de nier tous les travaux qui ont été faits pour essayer de comprendre comment se formaient ces objets-là. Malgré leur découverte qui remonte à plus de 100 ans, on ne sait toujours pas vraiment comment ça se forme. Il y a beaucoup de chercheurs à l'heure actuelle qui travaillent sur des stromatolites, notamment des stromatolites actuels, qui se forment à l'heure actuelle, notamment en Australie. Et c'est toujours pas vraiment bien contraint, tous les processus à l'origine de la formation de ces structures.
Comment on arrive à dater justement ces roches, Sylvain Bernard ?
Alors ces roches, elles sont datées par des méthodes de datation radiochronologique. On regarde les isotopes qui sont présents dans ces roches. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose d'assez bien contraint. On connaît les temps de demi-vie de certains isotopes. On sait combien il y en avait au moment où la Terre s'est formée. Mmh. Et donc au moment où ces roches se sont formées. Et donc on peut remonter assez facilement et assez précisément à l'âge de ces roches. Donc là, pour le coup, au Groenland, toutes ces roches de la ceinture verte au sud du Groenland sont assez bien datées. On sait que c'est vraiment des roches qui ont 3,7 milliards d'années. Il n'y a pas trop de doute là-dessus.
Donc c'est sur l'origine biologique que la question est posée. Hein.
Et voilà, parce qu'en soi, ces objets qu'ils ont vus, c'est des objets assez exceptionnels. Alors ils sont évidemment pas formidablement beaux parce qu'il y a une histoire géologique compliquée qui les a altérés. Mmh. Mais en soi, c'est des objets qui font quelques mètres seulement. Hein. Les affleurements font quelques mètres. Ces objets font quelques centimètres. C'est 1 à 5 centimètres de hauteur seulement. Mais c'est des objets qui ressemblent en tout point, en tout cas de par leur structure, aux stromatolites qu'on juge étant fabriqués par le vivant à l'heure actuelle.
Donc c'est
troublant, c'est vraiment des objets très troublants, parce que si c'est confirmé que ces stromatolites sont d'origine biologique, effectivement ça veut dire que la vie existait déjà à cette époque,
oui.
Et probablement qu'elle existait un peu avant, parce que dans les stromatolites actuels, tout du moins, on n'a pas un seul type de micro-organisme, on a vraiment une diversité de micro-organismes qui participent, ou du moins qui sont impliqués dans la fabrication de ces objets.
À quoi ressemblait la planète Terre il y a 3,7 milliards d'années au moment où ces roches se formaient ?
Alors la planète Terre, elle était complètement différente, hein. L'atmosphère également, c'était complètement différent. Il n'y avait pas de vie sur les continents, c'est-à-dire il n'y avait pas de forêt. Les océans, leur chimie aussi était complètement différente. Dans l'atmosphère, il y avait probablement beaucoup plus de CO2, de CH4 qu'à l'heure actuelle. Il faisait probablement aussi beaucoup plus chaud. Donc c'était vraiment des conditions qui étaient un peu, qu'on connaît plus à l'heure actuelle à la surface de la planète. mais c'est pas forcément des conditions qui étaient inhabitables. Il y avait de l'eau liquide et il y avait des sources d'énergie, notamment le soleil, mais pas que. Et donc il est très possible que la vie soit apparue à ce moment-là. Maintenant, il reste à le démontrer. Et l'observation de stromatolites, c'est une avancée vers cette démonstration, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que, à nouveau, l'observation de stromatolites prouve pas en soi que le vivant existait et que c'est le vivant qui a construit ces objets.
Donc vous êtes quand même très réservé hein, par rapport à la proposition de ce scientifique publié quand même dans Nature. Hein, donc vous êtes prudent.
Bah voilà, ouais, c'est ça. C'est plus une histoire de prudence parce qu'en fait il y a déjà eu beaucoup d'affirmations de... C'est un peu la course à qui va trouver les plus vieilles traces du vivant à l'heure actuelle. Et il y a beaucoup d'arguments qui, en fait, sont souvent nécessaires, mais pas suffisants. Et donc, pour le moment, ça reste à prouver. Disons que ces objets sont vraiment troublants, ils sont vraiment jolis. Malgré tout, alors ils n'en parlent pas vraiment, ces auteurs, mais il n'y a pas forcément de matière organique associée. Mm-hmm. En tout cas, pour le moment, ils n'en ont pas décrit. Et si c'était vraiment des tapis microbiens qui étaient associés à la formation de ces objets, on pourrait peut-être retrouver des restes qui permettraient d'avancer un peu plus sur la compréhension de ces objets, pour déterminer un peu plus précisément, de façon un peu plus rigoureuse, leurs origines. Là, pour l'instant, ces auteurs, ils se cantonnent à des arguments géométriques. Alors, c'est ce qui est beaucoup fait, c'est comme ça que ces objets sont décrits par énormément d'auteurs, hein, sont décrits, sont classés, classifiés. Mais étant donné qu'à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas exactement comment ces objets se forment, pour moi, il apparaît compliqué de conclure directement suite à l'observation de ces objets.
Bon, c'est ce que fait l'auteur, lui, en tout cas.
Par la vie, et que donc la vie existait. Mm.
Si jamais on s'amuse à y croire, à la présence de vie il y a 3,7 milliards d'années, qu'est-ce que ça change concernant son apparition sur Terre ou ailleurs ?
Bah, pour le coup, si la vie est vraiment apparue il y a 3,7 milliards d'années, voire un peu avant, ça veut dire que la vie est apparue très très tôt dans l'histoire de la Terre, notamment juste après l'épisode du grand bombardement tardif qui a longtemps été vu comme complètement stérilisateur, qui aurait dû stériliser toute la surface. On voit encore hein, des traces de ce grand bombardement quand on regarde la Lune, hein, la majorité des cratères d'impact datent de cette époque, c'était il y a 3,9 milliards d'années. Et donc si la vie existait il y a 3,7 milliards d'années, c'est qu'elle a pu apparaître très très vite entre cet épisode drastique et ces structures qu'ils ont observées. L'intérêt de tout ça, c'est qu'en fait, si la vie est apparue sur Terre il y a 3,7-3,8 milliards d'années, elle a très bien pu aussi apparaître sur Mars, par exemple, qui, il y a 3,7-3,8 milliards d'années, présentait des caractéristiques très similaires à celles qui existaient, enfin, à celles de la Terre à la même époque. Ce qui veut dire que, si la vie est apparue sur Terre, elle a très bien pu aussi apparaître sur Mars à la même époque, et donc ça relance complètement la recherche de traces de vie. Alors ça relance, il n'y avait pas forcément besoin de la relancer, hein, mais ça redonne une motivation supplémentaire pour aller chercher des traces de vie sur Mars, d'autant que Mars est une planète qui n'est pas du tout active tectoniquement et qui donc a préservé à sa surface des roches très très vieilles, contrairement à la Terre, hein, où la majorité des roches très anciennes ont été recyclées, transformées. Sur Mars, on a encore beaucoup beaucoup de ces roches très anciennes. Et donc il est très possible que on puisse aller retrouver un jour sur Mars des formes de vie ou en tout cas des preuves que la vie existait à cette époque-là. Ouais.
Sylvain Bernard, merci beaucoup. Donc étude parue dans la revue Nature et qui n'a pas fini de faire parler d'elle. En tout cas, nous on va en discuter avec vous la semaine prochaine. On va consacrer une émission entière aux premières traces de vie sur Terre. Merci à vous.
Merci
Axel.
Merci Mathieu.
Et à demain.
À bientôt.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, un petit ptérosaure dans la cour des grands, alors que ces reptiles qui vivent au temps des dinosaures sont plutôt connus pour être des géants des airs, pouvant atteindre plus de 10 mètres d'envergure. Eh bien, le nouveau venu, qui a été découvert sur une île de Colombie-Britannique, fait la taille d'un chat. Identifié grâce à un os fossile de son aile et d'une vertèbre, il mesure environ 40 cm de haut et 1,5 m de large, aile déployée. La découverte d'un spécimen si petit vient élargir encore la diversité de taille et de forme parmi les animaux du Crétacé tardif il y a 77 millions d'années. 60% des réserves d'eau souterraines du sud de l'Inde sont impropres à la consommation humaine. Le bassin indo-gangétique qui couvre une grande partie du Pakistan, le nord de l'Inde et la quasi-totalité du Bangladesh approvisionne quotidiennement plus de 750 millions de personnes en eau. Malheureusement, une étude publiée dans Nature Géosciences montre que les eaux du bassin sont trop salées avec des concentrations toxiques d'arsenic. L'arsenic est naturellement présent dans de nombreuses sources potables, mais il grimpe en Inde à des niveaux dangereux avec l'utilisation d'engrais et l'exploitation minière. Et puis, pour terminer en images, la NASA a dévoilé hier une vidéo spectaculaire de 3 ouragans filmés mardi depuis la Station Spatiale Internationale. Les images montrent les ouragans Madeline et Lester qui se dirigent vers Hawaï dans le Pacifique et l'ouragan Gaston qui survole en ce moment l'océan Atlantique. 3 phénomènes climatiques particulièrement imposants et qui ont lieu en même temps, hasard du calendrier météo. Madeline est classée tempête tropicale de catégorie 3 avec des rafales allant jusqu'à 185 km/h et Gaston, dans la même catégorie, transporte des vents mesurés jusqu'à 195 km/h.